I am your voice.
Nous sommes deux vieilles nations dans le monde.
Le Royaume-Uni et la France.
لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء
بالله بالدم
تكون لعنة عليكم
نبديك يا أقصى
إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها
بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم ولأولادكم.
Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jelle Lakhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Un peu plus d'une semaine après la prise d'El Fach par les forces de soutien rapide, plus de 36 000 civils soudanais ont fui des villes et des villages face à l'avancée des combats. Dans cette même localité, des centaines de civils ont été pris pour cible. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé dit être consterné, profondément choqué par le massacre de 460 personnes dans l'hôpital d'El Fach. Les paramilitaires n'hésitent pas à mettre en scène l'exécution de civils dans un geste de défi. Leurs méfaits sont aussitôt mis en ligne. William Spindler, porte-parole du HCR, au commissariat des réfugiés, fait état des rapports transmis.
Les rapports de nos équipes de protection et de terrain dans les pays voisins décrivent également les horribles épreuves auxquelles sont confrontées les femmes et les jeunes filles au Soudan. Elles font état d'incidents choquants en termes de violences sexuelles, notamment de viols, d'agressions, d'exploitation et de violences physiques.
Face à ces crimes répétés, rien ne subsiste. En revanche, les médias sont moins craintifs, moins pointilleux, légèrement plus objectifs. Ils n'hésitent pas à utiliser des qualificatifs précis tels que génocide. Quoi qu'il en soit, l'horreur est bien réelle. La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé près de 12 millions de personnes et provoqué la pire crise humanitaire au monde. Selon l'ONU, à El Fach, les témoignages sont glaçants.
Certaines personnes sont mortes de faim dans leur maison. J'ai dû évacuer les corps avant qu'ils ne pourrissent. Il y a eu de nombreux abus. Leur comportement n'avait aucun sens. Ils attrapaient les femmes et les traînaient à l'intérieur. Ils leur faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et ils étaient obligés de faire ce qu'ils leur demandaient. Autrement, ils leur volaient leur argent, les battaient, puis les tuaient. Une fois terminé, ils leur rasaient la tête. Et ils filmaient tout ça pour envoyer les vidéos à leur famille. Ils ont volé et kidnappé des femmes qu'ils ont ramenées avec eux. Il disait qu'il prenait les plus jeunes femmes d'ici afin de les échanger ou de les vendre.
Avec nous en ligne, Monsieur Antoine Gérard, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes coordinateur humanitaire adjoint des Nations Unies pour la région du Darfour au Soudan. Vous êtes avec nous à partir de la localité de Tawila, qui se situe à 50 kilomètres d'El Fach. Monsieur Antoine Gérard, vous avez alerté sur la recrudescence des attaques contre des civils à El Fach, notamment par des frappes de drones. Vos alertes ont-elles été suffisamment prises en considération?
Oui, vous avez raison. En fait, il y a eu une série d'attaques contre les civils dans la ville de El Fach. Et non seulement ce dont vous venez de mentionner, c'est-à-dire des drones, mais également, comme vous le savez, alors que les troupes du RSF ou de tout membre affilié à RSF sont rentrés dans la ville d'El Fach, ils ont commis des crimes qui, outrageusement, ils ont publié des vidéos des crimes qu'ils avaient commis. Nous avons reçu des témoignages de la sorte alors que nous avons rencontré ces victimes dans les villes qui sont autour de El Fach.
Les auteurs des crimes sont bien connus, Monsieur Antoine Gérard.
Oui, et malheureusement, même si actuellement Tassis, qui est le gouvernement formé auprès de RSF et le porte-parole, maintient que ce sont des vidéos trafiquées, les témoignages que nous recevons à différents endroits au sein du Darfour et également ici à Tawila où je suis, correspondent exactement à ce que nous avons vu sur ces vidéos, c'est-à-dire des crimes qui ont été commis certainement au vu et au su de RSF, des forces de soutien rapide, même si aujourd'hui on nous dit que ces vidéos sont trafiquées, ils ont clamé le contrôle de la ville et donc ils sont responsables de toute personne qui a commis des crimes sous leur autorité.
Quelles sont les mesures urgentes auxquelles vous avez appelé et engagé aujourd'hui, Monsieur Antoine Gérard?
Effectivement, nous avons ici à Tawila, 50 kilomètres, une énorme communauté de déplacés, plus de 600 000 personnes qui sont venues s'agglutiner sur cette ville pour chercher une assistance et une protection. C'est le dilemme auquel nous sommes confrontés depuis des mois. Comme vous le savez, nous avions eu déjà en mars de cette année une attaque sur un des plus grands camps du Darfour, le camp de Zamzam,
oui,
qui avait occasionné des mouvements de population sur cette ville de Tawila où je me trouve. Maintenant, nous recevons également des déplacés de Fasher. Il y a également des déplacés de El Fasher dans d'autres localités où nous essayons d'intervenir. En même temps, nous sommes très inquiet parce que la violence qui s'est exercée sur les populations civiles à El Fasher aurait dû occasionner un déplacement de population plus important et nous ne comprenons pas où sont les populations qui ont fui. Et nous craignons que ce sont des populations qui sont en otage dans certaines villes et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer ou pour certaines ont été tuées ou sont mortes, sachant que les conditions dans l'île d'El Fasher depuis 16 mois étaient terribles, puisque c'était une ville qui était sous siège.
Monsieur Antoine Gérard, vous êtes coordinateur humanitaire adjoint des Nations Unies pour la région du Darfour au Soudan. Vous êtes à Tawila, à 50 kilomètres d'El Fasher, dans le Darfour. Dans une de vos déclarations, vous avez souligné que le camp de Zamzam que vous citiez à l'instant, qui abritait plus de 400 000 personnes, est devenu une base militaire pour les forces de soutien rapide, ce qui a contraint la majorité des réfugiés à fuir vers le désert. Donc, ce sont des zones civiles qui ont été carrément transformé en base militaire.
Oui, effectivement, au mois de mars, quand les troupes de RSF, les forces de soutien rapide, et également tout autre élément associé au RSF, sont venus attaquer le camp de Zamzam, ils sont restés sur une base militaire à l'intérieur du camp. Les gens ne se sentant pas en sécurité sont venus se déplacer sur cette ville de Tawila sur laquelle je me trouve. Et j'étais déjà venu ici au mois d'avril pour regarder comment nous pouvions apporter une assistance et une protection à ces personnes qui venaient de Zamzam. Plus de 400 000 personnes sont venues sur cette ville et il a fallu rapidement apporter un soutien. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, cette même ville reçoit des déplacés de la région de El Fasher.
Vous précisez, Monsieur Antoine Gérard, vous précisez que les forces de soutien rapide sont responsables des blocages et de la situation actuelle. L'accès par l'ONU et par les ONG devient impossible du fait de l'insécurité. Dans ces conditions, comment est-ce que les aides arrivent aux populations sur place?
Effectivement, si je regarde la situation de El Fasher, il nous faut des conditions de sécurité. Ce n'est pas seulement la prise de la ville qui nous permet de commencer les programmes, c'est les routes qui vont vers cette ville de El Fasher qui sont aujourd'hui dans un contexte d'insécurité. Les personnes qui fuient la ville et qui ont pris ces routes nous ont rappelé que soit les femmes et les jeunes filles ont été violées, soit les anciens soldats ont été tués, ou des jeunes ont été recrutés de force. Nous ne pouvons pas opérer sur ces voies terrestres, sur ces routes, en allant vers Fasher dans ces conditions. Donc, nous avons non seulement à avoir toutes les conditions pour pouvoir nous déplacer sur ces routes,
oui,
qui soient sûres, et également de pouvoir entreprendre des programmes à l'intérieur de El Fasher. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les conditions pour pouvoir obtenir l'assurance de nos programmes sur El Fasher. Aujourd'hui, ce que nous déplorons, c'est la situation à El Fasher.
Oui.
Nous avions alerté la communauté internationale depuis des mois que nous anticipions que quand les troupes de forces de soutien rapide entreraient dans la ville, ce seraient des violations et des crimes. Nous avions alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avions également envoyé des lettres et également communiqué au leadership du RSF nos préoccupations. Et malheureusement, aujourd'hui, nous recevons des témoignages par centaines de ce genre de crimes qui ont été commis. Et outrageusement, nous avons des membres du RSF qui ont posté des vidéos qui nous décrivent les crimes horribles qu'ils ont commis.
On peut dire aujourd'hui, sans trop se tromper, que peu d'intérêt a été accordé à vos alertes, Monsieur Antoine Gérard.
Écoutez, c'est effectivement le constat que nous faisons. Le secrétaire général adjoint Tom Fletcher des Nations Unies pour les affaires humanitaires a déposé il y a 3-4 jours au Conseil de sécurité un cri d'alarme à nouveau en disant que c'est une responsabilité politique collective de cesser cette guerre. Nous sommes des humanitaires, nous ne sommes pas des politiques, nous ne sommes pas des militaires, mais malheureusement, nous voyons les conséquences de cette inaction.
Qu'attendez-vous des autorités politiques et militaires, Monsieur Antoine Gérard, même si vous êtes humanitaire?
Nous avons demandé depuis de nombreux mois qu'il y ait une trêve humanitaire, qu'il y ait une trêve humanitaire non seulement pour que l'assistance soit acheminée là où il y a des besoins urgents, mais également une trêve humanitaire afin de permettre la protection des personnes qui souhaitent fuir les zones de combat. Nous n'avons toujours pas obtenu cette trêve humanitaire et nous espérons que l'engagement des différents acteurs politiques nous permette d'obtenir cette trêve humanitaire et qu'elle soit observée sur le terrain.
Monsieur Antoine Gérard, coordinateur humanitaire adjoint des Nations Unies pour la région du Darfour au Soudan, vous étiez avec nous à partir de Taouila, 50 kilomètres d'El Fasher. Merci infiniment, Monsieur Antoine Gérard, d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie de votre intérêt. Bonne fin de journée.
هذه الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة امتدت إلى جنوب العاصمة وحتى إلى غربها إلى المحورين الرئيسيين الرابطين بين باماكو بمدينة دكار.
Depuis début septembre, le groupe Jnim affilié à Al-Qaïda empêche l'importation de carburant dans le pays. Des camions-citernes sont incendiés presque chaque jour, de nombreuses stations ont fermé et d'autres voient des files d'attente interminables qui s'étirent jusque tard dans la nuit.
Washington et Londres ont appelé leurs employés non essentiels à quitter le territoire malien en raison des risques sécuritaires qui pèsent sur le Mali depuis la mise en place du blocus imposé par le groupe armé Jamaat Nusra wal Muslimin qui empêche les livraisons de carburant dans Bamako. La décision américaine a été suivie par d'autres pays comme l'Italie, l'Allemagne, le Canada ou encore l'Espagne. Depuis le mois de septembre, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans prend pour cible les camions-citernes de carburant venant notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, par où transite une partie substantielle des importations maliennes. La situation sécuritaire au Mali a un impact direct sur les régions du Sahel, notamment au Niger, au Burkina et en Mauritanie. La crise sécuritaire au Mali est un facteur majeur de la déstabilisation dans la région du Sahel, avec des répercussions multiples pour la paix et la sécurité, et qui ne manque pas d'impacter directement les populations. Avec nous à partir de Nouakchott, M. Abdallah Old Bouna, expert mauritanien en stratégie sécuritaire pour la région du Sahel. M. Old Bouna, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Saïd Old Bouna, shukran lihudurikum ma'ana al-yawm. M. Old Bouna, Saïd Old Bouna, khatawa jama'at al-Nusra tudhir tas'id nahwa ta'sis kiyan siyasi yamtad ila manatiq fi gharb wa wasat Afriqia. M. Old Bouna, la progression du groupe jama'at al-Nusra marque ou indique la volonté de mettre sur place une entité politique. Est-ce que vous voyez les choses sous cet angle ?
أهلاً وسهلاً أستاذتي الفاضلة.
أهلاً بك.
نحن كمراقبين نتابع.
En tant qu'observateur, nous suivons de près les mouvements incessants des groupes armés au Mali, notamment le groupe Al-Nusra et ses alliés. Le projet, bien entendu, c'est l'établissement d'un État, mais pour que ce projet aboutisse, il leur faudrait un ensemble de conditions qui ne sont pour l'heure pas réunies. Ils pourraient certes réussir temporairement à l'emporter sur les putschistes maliens, mais à moyen terme, ils représentent un véritable danger si aucune force de dissuasion sérieuse ne vient freiner cette dynamique sur le sol malien. Le gouvernement putschiste de Bamako semble, de son côté, totalement impuissant, incapable d'affronter, incapable même de se défendre. La capitale, Bamako, subit une offensive habile de la part de ses groupes armés, fondée sur des tactiques de guerre bien connues, frapper où l'adversaire est vulnérable, laisser s'effondrer tranquillement ses positions fortes, couper les lignes d'approvisionnement en carburant, en nourriture, exercer une pression constante sur la population et sur l'armée malienne. Les dirigeants de Bamako se voient contraints de concentrer leurs forces autour des mines d'or de l'ouest et du sud-ouest, l'or constituant la principale source de revenus du pays. Et nombre d'observateurs redoutent aujourd'hui une aggravation de la situation qui pourrait déboucher sur un éclatement de l'État central malien. Ce scénario, s'il venait à se confirmer, provoquerait un effet domino vers le cœur du continent africain en direction de la Mauritanie et de l'Algérie.
Saïd Abdallah Oldbouna, une rançon record d'au moins 50 millions de dollars a été versée au groupe Nosra pour un otage émirati. Est-ce que cela n'a pas constitué un facteur supplémentaire? Fidia, qiyasi, elle taqel an 50 millions de dollars dofi'at li jama'at Nosra muqabel rahina émirati. هل هذا لم يشجع يعني النصرة في توطيد وجودها في المنطقة؟
Écoutez, madame, il nous faut lire attentivement le terrain malien. Le Mali, c'est aujourd'hui un gouvernement faible, des groupes armés puissants et une mosaïque d'acteurs régionaux et internationaux qui exploitent cette brèche à des fins géopolitiques. Parmi ces objectifs figure la volonté d'influencer la Mauritanie et l'Algérie, placés, pour ainsi dire, au centre de la tempête. Les États qui agissent désormais sur la scène malienne après le retrait des forces de l'ONU et de la France sont pour la plupart des États fonctionnels du camp sioniste qui œuvrent activement à tirer parti du vide laissé par ce départ. Ce qui est regrettable, c'est que des groupes terroristes aient pu bénéficier du soutien ou de la complaisance de ces États dits fonctionnels opérant au Mali, notamment à travers le paiement de rançons, comme ce fut le cas récemment. Il faut dire que ces rançons représentent une manne financière importante pour les groupes armés.
On peut dire que cette demande de rançon a été construite de toutes pièces, monsieur Oldbouna.
C'est clair, madame. Et il est évident que les enlèvements à répétition, les rançons qui les accompagnent au Niger comme au Mali, suscitent de nombreuses interrogations. Ce n'est pas la première fois que des civils ou même des agents de renseignement étrangers sont victimes de ce qu'on appelle des prises d'otages. Plusieurs éléments sont souvent impliqués, des chasseurs, des groupes surnommés les faucons ou d'autres encore. Généralement, ce genre de crise se règle par des contacts téléphoniques, mais ce qui s'est passé dernièrement sort de l'ordinaire. Qu'un petit avion civil atterrisse sur une zone échappant au contrôle du gouvernement central de Bamako, juste après l'annonce d'un enlèvement, n'a rien de normal. On ne peut pas se contenter d'une lecture superficielle des faits. Ce n'est pas anodin qu'un appareil atterrisse dans une zone non sécurisée. La question mérite d'être posée. S'agit-il d'un véritable enlèvement ou d'une opération de renseignement plus large? L'hypothèse d'une mise en scène n'est pas écartée. Ce que nous avons suivi des événements contredit le bon sens sécuritaire. On n'envoie pas des civils à bord d'un petit avion dans une zone en guerre et encore moins hostile. La détention, d'ailleurs, a été très brève et l'affaire s'est réglée localement sans intervention majeure. Ce genre d'opérations de renseignement, souvent manquent de rigueur, elles sont improvisées, inachevées, voire mal préparées.
Monsieur Abdallah Oldbouna, expert mauritanien en stratégie sécuritaire pour la région du Sahel, vous êtes avec nous à partir de Nouakchott. Monsieur Abdallah Oldbouna, jusqu'à quel degré ces groupes constituent un défi sécuritaire pour les pays de la région? Il y a Sayyid Abdallah Oldbouna, يمكن لهذه الجماعات أن تمثل تحديا أمنيا لدول المنطقة.
La question est très claire. Le niveau de menace est appelé à s'intensifier, à moins qu'on ne parvienne à couper les lignes d'approvisionnement de ces groupes armés. Le Mali est composé de plusieurs régions, toutes aujourd'hui sous tension. Le gouvernement central a perdu le contrôle non seulement sur les voies logistiques, mais aussi sur la prise de décision elle-même. Et certaines puissances étrangères s'ingèrent désormais dans les affaires maliennes pour servir leur propre dessein géopolitique, une ingérence qui a ouvert la voie à un afflux massif d'armes dans le pays. On assiste ainsi à une prolifération de groupes armés, à la formation d'alliances qui témoignent de l'existence d'un véritable cerveau stratégique derrière tout cela, car les attaques que l'on observe dans l'ouest, le sud-ouest, le sud et le nord du Mali ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'aléatoires. Une lecture militaire sérieuse montre clairement des schémas de combat élaboré, mêlant des tactiques anciennes et modernes, visant des points faibles de l'adversaire et laissant ses bastions tomber d'eux-mêmes. C'est pourquoi l'étau qui se resserre autour de Bamako avance lentement mais efficacement. Il agit en profondeur sur le tissu civil pour affaiblir le gouvernement central de l'intérieur. Ce mode opératoire, progressif et indirect, relève d'une réflexion militaire intelligente. Ces groupes, il faut le dire, ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ils bénéficient de parrains, de financements, de soutien logistique, et si l'on permet à certaines puissances de continuer à jouer dans notre région la carte de la boutique du terrorisme pour influencer les États voisins, la situation deviendra explosive, le risque est d'autant plus grand que cette dynamique avance vers le cœur de l'Afrique.
سيد عبد الله أولدبون غياب التنسيق بين دول المنطقة والتصعيد السياسي ألم يكن في صالح هذه الجماعات أولا ألم يؤدي إلى الانفلات الأمني Monsieur عبد الله أولدبون le manque de coordination entre les États n'a-t-il pas conduit à la situation que nous vivons actuellement à savoir l'émergence de ces groupes armés
Absolument. Le démantèlement des relations entre les pays de la région fait partie intégrante des objectifs poursuivis par les puissances qui déstabilisent le Sahel à travers le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le Maroc, par exemple, joue dans ce jeu. Il s'emploie à attiser les tensions, notamment à l'encontre de l'Algérie et de la Mauritanie. Israël également est impliqué. Les Émirats arabes unis y tiennent aussi un rôle actif. Il faut tirer les choses au clair. Ces tensions font partie d'un mécanisme plus large de protection de l'ingérence extérieure. Tout cela s'inscrit dans une stratégie soigneusement dessinée, centrée sur le Mali. Il aurait été préférable de maintenir une coordination et surtout que Bamako ne se retire pas de l'accord d'Alger. Cet accord avait tracé une voie prometteuse, renforçant le front intérieur malien et ouvrant des perspectives économiques pour le peuple malien, mais ce projet, qui allait dans le sens des intérêts régionaux, ne semble manifestement pas convenir à ceux qui tirent les ficelles.
سيد عبد الله أولدبونا فلنؤكد على هذه النقاط التي وضحتموها فوق الحروف كيف كان دور الإمارات في هذا الشأن précisons ces points que vous voulez mettre sur les i de quelle nature était le rôle des Émirats dans ce que vous citiez à l'instant de quelle nature était-il
تاريخياً
Historiquement, les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, ont toujours été des acteurs de paix, pour ne citer que les négociations avec l'Iran dans les années 70 ou dans l'apaisement des différends entre États arabes. Mais ce que l'on constate là, c'est la montée en puissance de l'ingérence du Golfe dans les affaires intérieures des pays du Maghreb ou des États sahéliens et subsahariens.
Dans quel but, Monsieur Abdallah Oldbouna?
Et cela s'explique aisément. Ces pays sont des États fonctionnels ouvertement alignés sur le projet sioniste qui vise à fragmenter le monde arabe et islamique. Les Émirats ne s'en cachent pas. Ils jouent un rôle de premier plan dans ce qu'ils appellent l'accord d'Abraham. Mais la véritable surprise pour ce bloc vient du Maroc, sur lequel reposait une grande partie de leurs calculs régionaux. Or, le Maroc traverse une phase de forte turbulence sociale, politique, économique et sécuritaire. Les grands projets d'investissement, comme les lignes ferroviaires, deviennent incertains. Difficile d'y injecter des capitaux dans un contexte aussi instable. Leur stratégie consiste à imposer une domination douce par l'argent et l'investissement, en oubliant qu'il ne peut y avoir d'économie solide sans stabilité ni sécurité. Il faut le dire clairement, nous ne parlons plus de simple géopolitique, mais d'existence. C'est notre souveraineté, notre projet national, notre État qui sont en jeu. Et en Mauritanie, nous sommes en première ligne, plus exposés que l'Algérie, au bord du volcan, proche du cœur des événements, sans disposer de sa puissance militaire ni de ses moyens économiques, ce qui rend la menace d'autant plus grave pour nous.
L'enjeu est existentiel, monsieur Abdallah Holdboun.
Autrement dit, nous savons très bien ce qu'ils veulent. Au-delà du vernis politique, ils cherchent avant tout leurs intérêts. Les matières rares, les minerais, le contrôle des ressources, c'est une lutte pour les richesses, pour les marchés, pour les infrastructures, pour l'exploitation des matières premières de la région. Mais ce n'est pas la bonne voie, car les peuples de cette zone réagissent toujours vivement à toute ingérence étrangère. Il y règne un véritable esprit de résistance. Le malheur du Mali, c'est que le putsch de Goïta manque cruellement de conscience et d'intelligence politique. Il n'a ni la ruse, ni la capacité de manœuvre nécessaire. Il s'attaque au monde entier sans proposer d'alternative, y compris à l'intérieur du pays. Et sur le plan interne, politique, militaire, économique, il se crée des ennemis partout, dans la société civile, dans l'opposition démocratique, jusque dans l'armée. L'institution militaire malienne n'est plus cette base d'appui traditionnel du peuple, on a le sentiment que le pays s'enfonce inexorablement. Les élites militaires au pouvoir n'agissent pas selon des paramètres rationnels et ceux qui veulent aider le Mali manquent de coordination. Parmi les États les plus attachés à sa stabilité figurent l'Algérie, la Mauritanie ou encore le Sénégal. Mais leur voix apaisante, leur volonté sincère d'aider ne sont ni entendues ni relayées par un pouvoir dépourvu d'alternatives internes. Jour après jour, ce pouvoir s'affaiblit, perdant la capacité de mobiliser et de maîtriser ses propres forces.
يعني هنالك مخطط لتفكيك دول منطقة أو بالأصح المنطقة بأكملها السيد عبد الله هولدبونة وإعادة بنائها على أسس جديدة قد تفرض على المنطقة من الخارج.
أصل المخطط التقسيم قائم.
À l'origine, le plan de morcellement existe déjà. Il s'inscrit dans une logique de retour d'avant-guerre, d'avant la création de l'ONU, des accords de partage d'États et de richesses. Aujourd'hui, l'ONU, avec sa charte et son conseil de sécurité, n'est plus capable de gérer le monde au seul profit des grandes puissances. Il y a un courant américain qui tend à revenir aux pratiques d'avant 1945, redistribuer les États, répartir les richesses, réorganiser le monde selon des priorités alignées sur des intérêts sionistes. Sur la force brute, rien que la force. Certains penseurs de ce courant font de la force le critère décisif. Aujourd'hui, s'applique une force écrasante qui n'apporte ni pensée, ni vision, ni solution. Historiquement, ce modèle finit par s'effondrer. Les sociétés ont besoin d'un pouvoir intellectuel pour gouverner les puissances matérielles et bâtir une civilisation. La logique sioniste, pour quelques-uns de ses inspirateurs, méprise les frontières. Au Maghreb et au sud du Sahara, un plan de division se profile. Il faut s'y préparer et le combattre. Les moyens utilisés sont nombreux et rusés. On intervient au nom des droits de l'homme, de la stabilité, du développement, tout en alimentant des guerres internes et des antagonismes ethniques, régionaux et sociaux, sud contre nord, est contre ouest, à l'intérieur même des États. Le mécanisme est en marche, hein.
Saïd Abdallah Holdboun, expert mauritanien en stratégie sécuritaire pour la région du Sahel, vous étiez avec nous à partir de Nouakchott. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci, monsieur Abdallah Holdboun. Shukran. blocus de carburant à Bamako imposé par le groupe Jamaat Nusra ou al-Muslimin depuis le mois de septembre a un impact humanitaire très lourd. Une situation qui provoque un ralentissement sévère de l'économie locale. Cette crise humanitaire est marquée par l'isolement généralisé de Bamako, la montée de l'inflation, la détérioration des niveaux de vie pour une population urbaine qui lutte pour accéder aux besoins essentiels du quotidien. Le chef du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires met l'accent sur une aide humanitaire urgente et nécessaire.
On estime qu'au Sahel central, sur le Mali, le Burkina Faso et l'ouest du Niger, on a à peu près 15 millions de personnes, ce qui est énorme, qui ont des besoins humanitaires et qui ont besoin tout simplement d'assistance pour vivre, pour survivre. Et on a une réponse humanitaire qui cible 9 millions de personnes sur ces trois pays. Et on a une demande de financement énorme de 2,3 milliards de dollars. Et pour le moment, nous avons reçu 12% de cette aide. Donc on est très loin de couvrir les besoins.
Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Eduardo González, l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, s'est dit préoccupé des attaques menées par les groupes extrémistes violents. Il a également souligné l'aggravation de la crise multidimensionnelle dans ce pays du Sahel qui a des conséquences graves pour la population civile et la stabilité du pays et de la région. Et nous avons en ligne à partir de New York, Monsieur Eduardo González. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali depuis 2025. Monsieur Eduardo González, vous avez mis en garde contre les violences telles que les meurtres, les enlèvements, la destruction et les pillages des biens civils. À qui était adressée votre mise en garde et quel écho a-t-elle eu?
En tant qu'expert indépendant de l'ONU sur les droits de l'homme au Mali, je reçois quotidiennement des rapports du terrain qui témoignent la gravité de la situation de violation des droits de l'homme. Et ça compris, par exemple, la situation des détenus politiques, des disparitions forcées, des attaques contre la population, des abus contre la population civile, y compris la destruction, le pillage, etc. C'est mon travail, à l'issue d'un processus technique, d'envoyer ces allégations au gouvernement malien. Donc, l'interlocuteur, c'est toujours le gouvernement malien. Et je dois toujours accompagner avec certaines questions, avec des recommandations. Ces lettres sont toujours publiées. Malheureusement, je dois dire, je ne reçois pas toujours de réponses. Et ça passe aussi que quand je reçois des réponses, il y a des réponses qui ne sont pas précises ou substantielle. Donc c'est vraiment un problème.
Vous avez aussi critiqué les forces de sécurité maliennes et leurs alliés au sujet des exécutions extrajudiciaires et les attaques aériennes notamment. Ce sont des attaques que vous aviez qualifiées d'indiscriminées. C'est des attaques qui ont fait de nombreuses victimes civiles.
C'est vrai. Sur les sujets des attaques aériennes avec les engins automatisés, les drones, je pense qu'on a un grand problème de manque de transparence. On n'a pas de transparence sur comment la guerre aérienne s'est livrée. On n'a pas d'informations sur les protocoles, sur les mécanismes que les forces armées maliennes et ses supplétifs utilisent pour éviter les attaques contre la population civile. Typiquement, ce qui se passe est qu'après une opération, les forces armées maliennes indiquent qu'ils ont attaqué une cible militaire, c'est-à-dire une cible des groupes armés. Mais en même temps, je reçois des informations très crédibles sur le terrain,
oui,
des attaques contre la population civile. Et le problème ici, c'est que le gouvernement malien n'a pas montré informations pour s'assurer que les cibles sont vraiment des cibles civiles. Laisse-moi vous donner mon expérience.
Je vous en prie.
Cette année, en mars, à Genève, j'ai publié un rapport très compréhensif de la situation des droits de l'homme au Mali.
Oui.
Le gouvernement malien a répondu dans cette session du Conseil des droits de l'homme que mon rapport était mal informé, que mon rapport était un rapport ennemi du Mali. Le gouvernement malien, regrettablement, n'a pas pris en compte d'une manière sérieuse mon rapport. Et au contraire, à Bamako, par le média malien, le gouvernement a dit que mon travail ce n'est pas technique ni pas neutre. Donc oui, vraiment, regrettablement, le gouvernement malien n'a pas pris en compte les informations et les recommandations que j'ai fait dans sa claire majorité. Et c'est vraiment préoccupant.
Et pourtant, vous êtes expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali.
Le Conseil des droits de l'homme a nommé des académiciens dans la situation de soit expert indépendant ou rapporteur spécial.
Oui.
Typiquement, il y a des rapporteurs ou experts sur un sujet thématique, par exemple la violence contre les femmes, ou sur certains pays, et donc mon mandat. Ces mandats, c'est créé pour aider le Mali. Ce n'est pas un mandat pour attaquer le Mali. C'est pour aider le Mali à soutenir les droits de l'homme d'une manière plus effective. Regrettablement, le gouvernement malien, je pense, a réagi d'une manière défensive et n'ont pas pris vraiment d'une manière sérieuse les possibilités de mon mandat. Pour vous poser un exemple.
Oui, oui.
J'ai suggéré au gouvernement malien que ce serait important de faciliter un processus de réconciliation nationale avec la publication du rapport de la Commission Vérité Réconciliation du Mali.
Oui.
La Commission Vérité Réconciliation a publié, a créé un rapport compréhensible sur l'histoire du Mali et la violation des droits de l'homme. Le gouvernement malien, regrettablement, a supprimé ce rapport. Le rapport n'a pas été publié et donc le Mali n'a pas obtenu son droit à connaître sa propre réalité. Donc, c'est seulement un exemple. Donc, je pense que vraiment, je regrette cette situation et je pense que les autorités doivent réfléchir sur cette situation.
Quel serait l'objectif visé par cette démarche? Ne pas accepter qu'il y ait une réconciliation? Quels seraient les soubassements de cette démarche?
Oui, exactement. À l'issue du processus de paix d'Alger, tous les partis de ces historiques processus de paix ont accepté d'installer un processus qu'on appelle dans le monde justice de transition.
Oui.
C'est-à-dire établir des éléments de réparation, de justice, de vérité sur les graves violations des droits humains. Et donc, à l'issue du processus d'Alger, le gouvernement malien a créé une commission qui s'appelait Commission de vérité, justice et réconciliation. Et donc, les recommandations de cette commission sont des recommandations essentielles pour le pays. Pour chaque pays, il y a beaucoup de pays du monde qui ont eu des commissions vérité, par exemple le fameux exemple de l'Afrique du Sud.
Absolument.
De mon propre pays, le Pérou. Et donc, de toute manière, nonobstant, regrettablement, j'ai écouté des leaders du gouvernement malien qui ne se fient pas du rapport de la commission vérité, ils ont attaqué le rapport et ils n'ont pas publié le rapport. C'est ça la question que c'est pour moi le plus préoccupant. Et je pense que connaître l'histoire du Mali, connaître l'histoire de cette situation de violence du passé, peut-être peut aider à trouver des solutions dans la situation actuelle.
Monsieur Eduardo González, vos conclusions mettent en lumière un contexte où les populations civiles subissent des violences hybrides. C'est ainsi que celles-ci sont qualifiées. Vous jugez la situation humanitaire et sécuritaire extrêmement préoccupante, indiquant que la solution réside dans des élections démocratiques, inclusives, et j'insiste sur ce terme, inclusives et pacifiques. Vous nous parliez à l'instant de la commission Réconciliation et Vérité, ce qui, comme vous l'expliquez, est une phase importante dans un processus engagé afin d'être sur une voie de reconstruction d'un pays, et vous dites également inclusive. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, plus d'informations?
Tout à fait, madame, tout à fait. Bon, je pense que la situation humanitaire et la situation des droits de l'homme au Mali est très grave, clairement. Les blocus qui ont été imposés par les groupes extrémistes violents dans les villes sont une grave attente à la population civile. Ces blocus de carburant, d'alimentation, etc., ça, ni le droit de la population d'avoir accès à l'électricité, les marchés, les hôpitaux, etc. C'est terrible. Donc, il y a une responsabilité très claire des groupes terroristes. En même temps, je pense que les décisions du gouvernement malien de, par exemple, se retirer, dénoncer le processus historique de paix d'Alger, d'incrémenter les actions militaires sans contrôle, sans protocole, vraiment sur la guerre aérienne, par exemple, ont été des décisions qui vraiment ont un impact terrible sur la population. La retraite de la MINUSMA, la rupture des relations dans la région, l'augmentation de la polarisation entre des pays dans la région, qui sont appelés à une collaboration, ce sont été des décisions difficiles à comprendre. Et donc, pour moi, oui, je pense que la solution doit être toujours une solution politique, une solution basée sur le dialogue, une solution basée sur la paix.
Alors, quand vous dites inclusive, vous entendez par là la participation des différentes communautés communauté du Mali, sans aucune exclusion.
Clairement, clairement. Je pense que la grande richesse du Mali, à mon avis, c'est la grande diversité culturelle, ethnique, linguistique, etc. C'est pour ça que je pense que la solution doit être toujours un dialogue ouvert dans toutes les communautés du Mali, discuter clairement les situations structurelles qui ont créé la présente situation.
Monsieur Edouard de Gonzalez, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali depuis mai 2024, à ce jour évidemment. Monsieur Edouard de Gonzalez, en octobre 2025, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU indique un effondrement du financement humanitaire, soit un recul de plus de la moitié par rapport à 2024. Est-ce que, selon vous, c'est la situation politique et sécuritaire actuelle qui a engendré cette situation ou une rupture dans la trame relationnelle avec les pays de la région?
Je pense qu'il y a une conjonction de différents facteurs dans cette situation. C'est clair que la situation humanitaire au Mali est très grave. C'est clair aussi, j'ai écouté directement de mes collègues, que les agences humanitaires n'ont pas couvert son budget. La situation économique de l'aide humanitaire est vraiment désespérée. Et ça, je pense que c'est le résultat aussi de certaines décisions de certains pays donateurs de ne pas apporter suffisamment. Mmh. Et c'est une chose qui doit être comprise comme une question de responsabilité partagée. C'est pas seulement une responsabilité des autorités maliennes ou des décisions maliennes. Clairement, tout le monde, et principalement les pays donateurs, doit maintenir l'aide humanitaire à ces régions, à cette population du Mali qui sont dans grave situation. La région sahélienne est d'une importance géopolitique, d'une importance humaine absolument centrale, pas seulement pour la région sahélienne, elle-même pour l'Afrique du Nord et du Centre, mais pour le monde.
Vous avez évoqué l'importance géopolitique. J'aimerais interroger votre expérience, monsieur Edouard de Gonzalez. Est-ce qu'il vous semble que les facteurs exogènes à la région ont exacerbé les tensions ou en tout cas exacerbé la situation?
Bon, je pense que de toute manière, on doit toujours écouter avec sérieuse attention les acteurs maliens. C'est vrai, je pense que dans beaucoup de secteurs de la société malienne, il y a une préoccupation sur le fait que les pays européens ont traité d'une manière, je dirais, avec arrogance les pays africains. Et donc, c'est une réalité que tous nous, les personnes qui viennent du tiers-monde, connaissons bien, comme latino-américains, comme péruviens, je comprends très bien ces préoccupations. Alors, de toute manière, je pense que la solution à une situation d'arrogance d'un côté de la dispute géopolitique mondiale ne peut pas être de trouver une autre solution géopolitique polarisante. Quand je parlais avec des personnes maliennes que je connais bien, ils m'ont dit toujours, il ne faut pas de rejeter un patron pour avoir un autre patron. Je pense que la cible doit être toujours pour nous, pays du tiers-monde, d'avoir une position indépendante, d'avoir respect à notre souveraineté, à notre dignité. Et donc, dans cet aspect-là, je pense que vraiment, il faut éviter de créer des situations géopolitiques plus aiguës avec ce type d'alliance que vraiment on crée des situations plus complexes.
Monsieur Edouard Gonzalez, expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali depuis 2024 à ce jour. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous étiez avec nous à partir de New York. Merci beaucoup, monsieur Gonzalez.
Merci à vous et merci à votre aimable audience.
Ont participé à ce programme Abdallah Ould Bouna, expert mauritanien en stratégie sécuritaire pour la région du Sahel. Abdallah Ould Bouna était avec nous à partir de Nouakchott, à partir du Darfour. Antoine Gérard, coordinateur humanitaire adjoint des Nations Unies pour la région du Darfour au Soudan. À partir de New York, Edouard Gonzalez, expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali depuis 2024, répondait également à nos questions. L'histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Hahel et Mariam Abdou. Vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah.